Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais vous parler aujourd'hui de la vocation sacerdotale. Tout d'abord, ce serment n'est pas seulement pour les jeunes hommes qui sont appelés au sacerdoce, mais vous intéressera tous. Parce que, tout d'abord, notre Seigneur dit que c'est tout le peuple chrétien qui doit prier pour avoir des prêtres. Deuxièmement, parce que cela vous donnera l'estime du sacerdoce. Et troisièmement, parce que une vocation sacerdotale est le fruit de toute une éducation, et l'éducation est le fait de toute la société, pas seulement de la famille. On pense souvent à la mère, mais il n'y a pas qu'elle, le père aussi a une grande importance, très grande importance dans l'éveil des vocations, et puis toute la société. Et c'est pourquoi c'est un drame aujourd'hui de voir que dans les familles catholiques, même celles qui sont généreuses, l'éducation est démolie par l'école et par toute une ambiance, par des amis, par le reste de la famille, que sais-je. C'est pourquoi nous avons si peu de vocations aujourd'hui. Premièrement, en introduction, je vous précise que je ne parlerai que de la vocation sacerdotale et non pas de la vocation religieuse, parce qu'elles n'ont pas le même objet. La vocation religieuse a pour but de donner la perfection, et donc elle convient, certes, à des gens qui aiment le bon Dieu et qui veulent l'aimer à la folie, mais elle convient également à ceux qui se sentent faibles et qui veulent être aidés pour ne pas tomber dans le péché. Et elle convient même à ceux qui se savent pécheurs et qui veulent une conversion solide, durable et persévérante, et être aidés de façon un peu forte, justement, pour ne pas retomber. Saint Thomas d'Aquin le dit expressément, cela. La vocation sacerdotale, elle, porte sur le sacerdoce, c'est-à-dire sur le sacrifice du Christ. Pour cela, il faut une certaine dignité avant de s'y engager. Sur le corps mystique du Christ, je vous l'ai dit, le pouvoir sur le corps du Christ, c'est-à-dire sur les âmes. Pour cela, nous allons voir qu'il faut une certaine science, il faut une certaine qualité de vie morale, et puis il faut une certaine aptitude. La première conséquence de cette distinction entre la vocation sacerdotale et religieuse, c'est qui prend la décision. Pour qu'un jeune homme se mette au service de l'Église, la décision de l'accepter ou non dans ce service comme prêtre revient à l'évêque. Ce n'est pas le jeune qui va pouvoir décider. Il se propose, il pense avoir les qualités, peut-être même est-il sûr que l'évêque lui dira oui. N'empêche qu'il se propose et c'est l'évêque qui accepte ou non. Et il arrive que l'évêque dise non. Dans la vie religieuse, au contraire, c'est le jeune qui décide. Bien sûr, il lui faut trouver une communauté religieuse et être accepté par cette communauté religieuse. Mais justement, on voit bien que c'est l'inverse. Dans la vocation sacerdotale, le jeune propose et l'évêque décide. Dans la vocation religieuse, le jeune décide et le supérieur accepte. Si le supérieur n'accepte pas, le jeune peut envisager d'autres possibilités. Le chanoine Laïton dit que la vocation consiste dans l'appel de l'évêque. Pourquoi je vous cite ce chanoine qui n'est connu que de ceux qui ont fait des études sacerdotales? Parce que, justement, dès qu'on touche à la vocation, il y a beaucoup de passion, notamment de la part de ceux qui n'ont pas suivi la vocation, qui voudraient se justifier, de la part peut-être des mamans qui aimeraient que leur fils soit prêtre, et particulièrement au XIXe siècle, qui était un siècle romantique, de passion, la raison ne savait plus parler, on ne savait plus très bien ce qu'était une vocation, et du coup on risquait de fausser beaucoup de choses. Le chanoine Laïton, un théologien, a écrit un livre qui a choqué et qui donc fut déféré à Rome pour être condamné. Et Rome, au lieu de condamner l'auteur du livre et sa thèse surtout, au contraire, l'a loué et l'a félicité pour avoir dit la vérité, à savoir que la vocation sacerdotale consiste dans l'appel de l'évêque. Si je rappelle cela, c'est parce que aujourd'hui encore, il y a beaucoup de passions. Et je sais très bien que le langage rationnel que je tiens, c'est pas moi qui le tiens, c'est l'Église, c'est tous les bons auteurs, vous le savez bien. Et ce langage rationnel crée des obligations. Si c'était une histoire de sentiment, on peut fuir le sentiment, on peut dire « ah, je ne sens pas, ah, j'aimerais pas ». Quand il s'agit d'une question de devoir, on ne peut pas échapper à son devoir parce que la raison parle. Et je sais très bien que ce langage suscite aujourd'hui encore beaucoup d'opposition. Mais je sais en même temps qu'il apporte la paix, la sérénité, le courage à ceux qui cherchent la volonté de Dieu et que cela les rassure. Première qualité pour devenir prêtre, la science. Alors pourquoi commençais-je par la science? Pourquoi ne commençais-je pas par la morale, la vertu? Parce que je suis l'ordre de notre Seigneur et ses apôtres, aller enseigner les nations. Donc d'abord enseigner. Je vous ai suffisamment montré dans les sermons précédents l'importance de la science, de la connaissance de la doctrine. Mais vous avez remarqué que ce qui compte dans ce que je vous expose, ce n'est pas tellement l'étendue des connaissances que le jugement qu'on porte sur les choses de Dieu. La science qu'on attend d'un prêtre, c'est une profonde connaissance des choses de Dieu. Un jugement sûr. Vous voyez, le curé d'Ars a été donné comme patron au prêtre, et donc il est la référence. Beaucoup de gens croient que le curé d'Ars était un ignorant, qui fut une exception et qui, grâce à sa vertu, devint quand même prêtre. Pas du tout. D'abord, le curé d'Ars n'était pas un ignorant, ça serait lui faire injure, et faire injure à l'Église, de laisser croire qu'elle a promu au sacerdoce un ignorant. Certes, il n'avait pas une grande étendue de connaissances, mais quand on lit ses sermons, on voit d'abord qu'il connaissait bien les choses de Dieu, il connaissait bien l'Évangile, il connaissait bien la théologie, et surtout, il la connaissait en profondeur. Et la connaissant en profondeur, il l'exposait avec clarté, tout le monde comprenait, tout le monde pouvait suivre, et tout le monde aimait ces vérités qu'il exposait. Si je vous dis cela, c'est pour encourager des jeunes qui penseraient ne pas avoir la science suffisante et qui croiraient, parce qu'ils ont fait des études très poussées, 6 ans, je crois, moi j'en ai fait un peu moins, mais 6 ans d'études, oh là! Je crois que c'est exagéré. J'ai connu des prêtres dans la fraternité Saint-Pédis, qui certes avaient fait 6 ans d'études, non, qui en avaient fait 5, à mon époque on n'en faisait que 5. Moins l'année de spiritualité, c'est-à-dire 4. Ces prêtres n'avaient pas beaucoup de connaissances théologiques, et alors encore moins une connaissance philosophique, fallait pas leur en demander. Ils ont fait beaucoup de bien, ils furent de très bons prêtres. Je pense notamment à l'abbé Jürg Bernard, un Suisse, qui est mort maintenant, qui était un vrai paysan, vous voyez. Il ressemblait beaucoup au curé d'Ars pour cela. Fallait pas trop lui en demander, mais quelle science profonde de Dieu! Et science communicative, il a fait beaucoup de bien. Il n'était pas très aimé de ses confrères, justement parce qu'on le prenait pour un béotien. Il a fait beaucoup de bien. La deuxième qualité, c'est la vertu. Il faut évidemment une vie en état de grâce. Il faut aussi une fuite habituelle du péché véniel de propos délibérés. Normalement, tout chrétien devrait fuir le péché véniel, même véniel de propos délibérés. Parce qu'on ne joue pas à choisir les péchés qu'on fait ou qu'on ne fait pas sous prétexte qu'ils ne sont que véniels. Celui qui ferait ça avec sa voiture aurait vite un accident. Et tous les auteurs spirituels nous disent que ceux qui jouent dans la vie spirituelle à tricher avec le péché véniel, cela finit toujours mal et très mal. Ce qu'il faut surtout, c'est un grand amour de Dieu, un grand désir de perfection pour soi et pour l'Église et pour les âmes. Cet amour de Dieu doit se traduire dans un très grand dévouement. Le prêtre ne s'appartient plus, il appartient à Dieu, il appartient à l'Église, il appartient aux âmes. Si le prêtre a ce grand dévouement qui va jusqu'au sacrifice total, hein, puisque il donne sa vie en ce sens qu'il ne vit plus pour soi-même, si le prêtre a ce dévouement, s'il a ce grand amour de Dieu et des âmes, nécessairement il aura la vertu qui convient. Il faut, troisièmement, une aptitude au ministère. Là, c'est la chose la plus subtile qui est plus difficile à évaluer. Un jeune, par exemple, saura s'il est apte à faire un avocat ou pas. C'est pas qu'une question de science. Moi, j'avais pensé, je m'étais demandé si le bon Dieu ne me voulait pas comme médecin pour me dévouer. Et la réponse a été très rapide, hein. C'était non. D'abord parce que je ne peux pas supporter la vue du sang. Puis surtout, je ne voulais pas avoir entre les mains la responsabilité de la vie d'un homme. En fait, de responsabilité sur la vie d'un homme, j'ai beaucoup plus que ça. Mais vous voyez, il y a une responsabilité grave pour laquelle je me sentais pas désemparé, et puis une beaucoup moins grave pour laquelle j'étais véritablement désemparé. C'est cela, vous voyez. Il y en a qui savent qu'ils pourront accomplir les tâches sacerdotales comme il faut, puis d'autres qui se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à trouver les bons moyens. J'ai connu un jeune homme qui était beaucoup trop timide pour prêcher, il le savait très bien. Et cependant, il s'est fait capucin. Or, les capucins sont un ordre prêcheur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande différence entre prêcher seul, prendre la responsabilité de sa prédication et de ce qu'on dit, quand on est prêtre séculier, et puis prêcher dans le cadre d'une prédication commune, et en se cachant derrière sa barbe de capucin, avec des confrères qui vous soutiennent, un supérieur qui vous soutient. Je suis sûr que ce jeune fera un bon prédicateur. Malheureusement, il est entré chez les capucins qui n'ont pas compris la crise dans l'Église. Et ça, alors, prêcher le bon Dieu quand on ne sait pas mettre en garde contre les erreurs d'aujourd'hui, ça risque de faire de gros dégâts. Enfin, c'est comme ça. Le monde moderne a créé chez beaucoup des blessures qui rendent inaptes au sacerdoce. D'où l'importance de l'éducation dans les familles encore catholiques, dont le souci devrait être de fournir le plus possible de bons prêtres. Mais, même ceux qui ont été blessés par le monde moderne, il y en a parmi eux qui feront de bons prêtres parce qu'ils seront aptes à se pencher sur la misère d'autrui. L'exercice du sacerdoce est exigeant. On blesse, on est un peu comme un médecin, on blesse pour guérir. Et il faut se rendre compte de l'exigence qu'on impose aux autres. Et je pense que des blessés du monde moderne, s'ils ont les bonnes conditions, une bonne communauté, un bon supérieur, une bonne volonté, ça ne fait pas tout. Mais je pense qu'il y en a qui peuvent faire de bons prêtres et qui justement seront d'autant meilleurs qu'ils sauront bien s'adapter à ce pauvre monde. Faut-il du goût pour entrer dans le sacerdoce ? Non. Non. C'est là justement où on choque et on surprend. Parce que ceux qui sont appelés sans avoir le goût préféreraient bien ne pas être appelés. Il faut ne pas confondre sentiment et raison. Le goût sentimental n'est pas nécessaire. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais, hein, je ne méprise pas le sentiment. Je dis que le goût sentimental n'est pas nécessaire. Quant au goût raisonnable, il vient et qui le veut. C'est une histoire d'amour. On choisit ce qu'on aime. Si on veut aimer le salut des hommes, le salut des âmes, le goût en vient. Vous allez me dire, il faut l'aptitude. On est tout à fait d'accord. Il faut l'aptitude, il faut la science et tout cela. Et cela va même plus loin. Saint Alphonse de Liguori dit que les vocations de raison, c'est-à-dire sans le goût sensible, simplement par devoir et par sens du devoir et l'amour de Dieu, Saint Alphonse de Liguori dit que les vocations de raison sont certes très pénibles, mais beaucoup plus profondes et beaucoup plus solides. Et oui, parce que le sentiment est fragile et change. Le père Bariel, dont je vous ai souvent parlé, voulait être prêtre à 2 ans, ça c'est un don de Dieu, mais sa vocation de prédicateur de retraite fut une vocation de raison. Il quitta sa paroisse à regret, sachant que son devoir était de se faire prédicateur de retraite. Il y a également l'histoire de ce jeune homme qui, je vous l'ai peut-être déjà raconté, c'est raconté dans le père Bulliard, son livre sur l'apostolat auprès des Esquimaux dans le Grand Nord canadien, qui s'appelle « Inuk, au dos de la terre ». Il raconte l'histoire d'un de ses confrères qui avait quelque 17 ans, quelque chose comme cela, qui était à l'hôpital. Il est guéri, et la religieuse infirmière, puisqu'il y avait quasiment que des religieuses, la religieuse infirmière lui dit « Alors jeune homme, qu'allez-vous faire une fois sorti de l'hôpital? Quel est votre avenir ?»« Oh, ma sœur, j'avais la vocation, mais après tout, c'est pas obligatoire de suivre. Je pense que je vais faire autre chose. » À ce moment-là, la sœur lui donne une double gifle, un aller et retour, pan, pan. C'est ainsi, jeune homme, qu'on parle quand on a eu l'honneur d'être choisi par Dieu. Ce jeune a compris la leçon, et non seulement il se fit prêtre, mais il se fit prêtre dans les conditions les plus difficiles qui soient, puisque entre les missionnaires du Grand Nord et les missionnaires chez les Papous, c'est quasiment la même difficulté. Oui, je sais, je vous ai déjà raconté cette histoire, peut-être même 3 fois, mais là, elle vient bien à point. Y a-t-il péché à ne pas suivre sa vocation ? Si je veux achever ce sermon, parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire, j'espérais faire un sermon un peu court, je l'ai enregistré 2 fois, figurez-vous, parce que le premier était trop long, et puis le deuxième est aussi long que le premier, alors je vais pas l'enregistrer 3 fois, puis ça serait dommage de pas dire tout ce que j'avais à vous dire. Alors je crois qu'il y aura un deuxième sermon sur la vocation. C'est des choses trop importantes pour que on passe trop rapidement dessus. Et je pense que ça vous intéressera. Je vous parlerai notamment comment avoir de bons prêtres. Alors là, ça sera vraiment, ça concernera tout le monde. Voilà. En attendant, priez beaucoup pour avoir de bons et saints prêtres. Demandez à la Sainte Vierge de toucher le cœur des jeunes hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.